Bonjour à tous. Donc bienvenue sur cette deuxième table ronde de la journée qu'on a intitulée « Quelle accessibilité pour les livres numériques et les autres ressources en ligne ?» Vous avez peut-être remarqué qu'en cette année 2023, ont été transposées dans l'appareil législatif français de nombreuses dispositions qui sont en lien avec la directive européenne de 2009 sur l'accessibilité des produits et services. Et du coup, à travers cette table ronde, on va d'abord faire une présentation des démarches qui sont en lien avec l'accessibilité du livre et des autres ressources, des démarches qui existent déjà. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va essayer de vous montrer les avancées récentes qui sont poussées un peu par la nouvelle législation ou d'autres initiatives qui se sont développées ces derniers mois, ces dernières années. Enfin, les choses vont assez vite en ce moment. Donc, quatre personnes sont autour de moi. On va faire un premier tour de parole où chacun va se présenter, présenter un petit peu sa structure et puis présenter les nouveaux projets, nouvelles dispositions dans un deuxième temps. Et vous aurez la parole ensuite pour poser toutes les questions qui vous brûlent les lèvres. Donc, Rodolphe Cellier, c'est vous qui allez inaugurer ce tour de parole. Ce matin, quelqu'un disait qu'il y avait peu d'hommes présents, donc on va vous laisser l'honneur. Donc, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et présenter votre service? Vous avez un titre très très long, je ne vais pas le redire moi.
Oui. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Rodolphe Cellier, je suis effectivement chef du bureau de la régulation et des technologies au sein du département de l'économie du livre, au service du livre et de la lecture, à la DGMIC, au ministère de la Culture. Mon bureau a en charge deux aspects de l'économie du livre, la régulation par les textes normatifs que le ministère peut prendre pour réguler la chaîne du livre et les équilibres de cette chaîne, et puis les technologies, parce que on observe que les évolutions technologiques dans l'économie du livre nécessite aujourd'hui pas mal de régulation. Donc c'est pour ça qu'on a associé les deux thématiques dans mon bureau. Et donc j'évoquerai avec vous l'une des régulations évoquées donc par Hélène sur le livre numérique nativement accessible.
Voilà, ça c'est pour dans quelques minutes. Marianne, tu vas continuer, donc tu vas peut-être nous parler en quelques mots de Platon, qui est donc un service que j'espère la plupart d'entre vous connaissent déjà, donc tu pourras aller assez vite normalement à la BNF.
Du coup, est-ce que je me présente d'abord ou là je parle directement? Ouais, alors là, c'est Marine Clatin, responsable du service diffusion des métadonnées à la Bibliothèque nationale de France. J'interviens ici parce que le service héberge le Centre Exception Handicap qui administre la plateforme Platon. Et c'est aussi là que sera coordonné et supervisé le projet de portail national de l'édition adapté et accessible.
Tu veux que je continue sur Platon
ou... Deux phrases sur Platon, un petit peu sur Platon.
Ouais. Ok. Donc, non, je pensais qu'on faisait d'abord une tour de table avant de passer à la suite.
Mais... Alors, bah, du coup, Marion, tu peux continuer. Donc, je te laisse te présenter et présenter Karel.
Merci, bonjour à tous. Donc, Marion Serre, je travaille pour le réseau des bibliothèques de la ville de Paris et je suis membre du conseil d'administration de Réseau Karel. Donc, Réseau Karel, c'est une association qui a été fondée en 2012 et qui réunit des bibliothèques et des réseaux territoriaux autour de la question des ressources numériques. Historiquement, l'association a été créée parce que, autant techniquement que financièrement, la question des ressources numériques, c'est quelque chose qui était compliqué en termes de négociation pour les bibliothèques. Aujourd'hui, l'association compte un peu moins de 300 adhérents à jour de leur cotisation. Donc, si vous avez encore l'occasion de faire des bons d'engagement et que vous n'avez pas renouvelé votre adhésion, c'est le moment. Elle est organisée autour de commissions thématiques qui historiquement regroupent plutôt des genres et des thématiques, l'autoformation, la musique, le livre, etc. Elle a la chance d'avoir une négociatrice qui est un peu le cœur de l'activité de Réseau Karel, puisque Réseau Karel, via essentiellement la négociatrice, permet de négocier avec les éditeurs pour améliorer les offres, les rendre acceptables et adaptées aux bibliothèques tant d'un point de vue budgétaire que sur des problématiques techniques et évidemment l'accessibilité dont on pourra évidemment reparler plus précisément tout à l'heure.
Merci. Et donc, notre dernière invitée, Fabienne Fouché, donc vous pouvez nous présenter, présenter et présenter Couperin.
Oui, donc Fabienne Fouché, donc moi je suis responsable de la bibliothèque de l'école de commerce de Nantes et je suis plutôt ici au titre de Couperin, donc l'association qui est sous forme d'association et qui est le consortium d'achat des ressources numériques pour l'enseignement supérieur et la recherche, donc un petit peu comme le réseau Carrel. C'est un réseau qui s'est constitué dans les années 2000, au moment où les éditeurs scientifiques ont commencé à proposer leur offre sous format numérique via des plateformes et où les établissements ont été confrontés à des hausses tarifaires importantes et des difficultés à prendre ces abonnements parce qu'on avait en face de nous souvent des éditeurs et des négociateurs hors pair et c'est peut-être pas dans l'ADN des bibliothécaires de négocier facilement les ressources. Donc Couperin s'est monté dans ces années-là et le fonctionnement se fait à travers un réseau de bénévoles. Aujourd'hui il y a pas loin d'une centaine de bénévoles, donc des personnels des bibliothèques des écoles, des grandes écoles, des établissements de bibliothèques universitaires et aussi de bibliothèques de certains organismes de recherche, parce qu'aujourd'hui Couperin c'est 260 membres. L'année dernière s'est constitué un groupe de travail accessibilité pour travailler sur ces problématiques d'accessibilité des ressources numériques qu'on négocie au titre de Couperin.
Donc merci, vous allez nous détailler ça tout à l'heure. Voilà. Donc afin qu'on ait tous un petit peu les mêmes bases, Marianne va nous faire un rappel assez rapide sur l'exception handicap et Platon pour qu'après on puisse enchaîner sur la suite.
Donc, j'ai mentionné l'existence du centre exception handicap. On revient en arrière pour l'exception handicap. Qu'est-ce que c'est l'exception handicap au droit d'auteur? En 2006, a été transposée en droit français une directive européenne qui est devenue ensuite la loi DAFTI, qui instituait un certain nombre d'exceptions au droit d'auteur, dont l'exception dite handicap, qui permettait à des personnes handicapées à 80%, donc moteurs, sensoriels, mentales, de demander des adaptations à des organismes habilités qui avaient le droit de réaliser ces adaptations en exception au droit d'auteur, c'est-à-dire sans demander l'autorisation des ayants droit ni les rémunérer. C'est ça l'exception handicap au droit d'auteur. Et la Bibliothèque nationale de France est en fait entrée dans ce dispositif par un décret de 2009 qui l'a institué en tant que tiers de confiance entre, d'une part, les éditeurs qu'elle connaît bien pour les obligations de dépôt légal, et d'autre part, un certain nombre d'organismes donc, qui avaient cette habilitation et qui, en plus de l'habilitation générale, avaient un agrément spécifique qui leur permettait de demander aux éditeurs le fichier source qui avait servi à la constitution de l'ouvrage. Tout ouvrage publié, même sous forme papier, a nécessairement un fichier numérique quelque part qui est allé à un imprimeur. C'est à cette fin que la Bibliothèque nationale a conçu et développé et maintient aujourd'hui la plateforme Platon. Platon étant un acronyme pour plateforme de transfert des ouvrages numériques. Donc les organismes habilités passent devant une commission, exception handicap, obtiennent cette habilitation qui leur donne le droit d'adapter des ouvrages à destination de personnes empêchées de lire en exception au droit d'auteur. Et certains de ces organismes ont un agrément en plus qui leur permet de demander le fichier qui transite donc de façon sécurisée par cette plateforme hébergée à la Bibliothèque nationale de France. Aujourd'hui, sur donc cette plateforme qu'on appelle Platon, on a 85 000 titres qui ont été déposés depuis 2010. La plateforme elle-même a ouvert en juin 2010, qui ont été déposés par les éditeurs. Et il y a aussi 55 000 fichiers adaptés qui correspondent à environ 35 000 titres, puisque un titre peut en fait faire l'objet de plusieurs adaptations sous différents formats pour répondre aux besoins des bénéficiaires finaux, qui ont été redéposés par les organismes eux-mêmes, puisque depuis la loi LCAP de juillet 2016, les organismes, donc qui a modifié un certain nombre le cadre en fait législatif, les organismes adaptateurs ont l'obligation de redéposer sur la plateforme Platon une version pivot ou finale de leur adaptation. Tout organisme habilité, c'est-à-dire y compris ceux qui ne connaissaient pas nécessairement Platon auparavant, parce que y compris les organismes qui ont réalisé leur adaptation sans passer par le fichier éditeur. Donc par exemple, les gens qui font une lecture d'un ouvrage papier à voix humaine, cette adaptation est redéposée. L'idée du législateur, c'était d'encourager la mutualisation en fait, des fichiers entre organismes adaptateurs, puisque de cette façon, certains peuvent repartir d'une adaptation déjà réalisée par d'autres et pour en réaliser une autre, ou certains organismes ne réalisent pas eux-mêmes d'adaptation, mais sont impliqués dans le dispositif en tant que rediffuseurs, puisque la particularité de Platon, c'est que ce n'est pas une plateforme accessible aux bénéficiaires finaux, le cadre législatif est contraint sur ce point, et donc les bénéficiaires finaux peuvent passer par des organismes qui ne sont pas forcément des organismes adaptateurs, typiquement des bibliothèques, pour demander, obtenir un fichier adapté qui correspond à leurs besoins de lecture. À la BNF, c'est donc mes collègues du Centre Exception Handicap qui s'occupent de ça, donc mes collègues Charlotte Ténier, Delphine Graplou, Sandrine Bernard, qui travaillent sous la responsabilité de Véronique Béranger, qui est responsable du centre. Et donc, c'est leur travail d'assurer le lien, en fait, entre les éditeurs et les organismes, d'assurer l'inscription des uns et des autres, la formation à cet outil, un peu au cadre juridique aussi, et puis d'assurer aussi un travail de relance, que ce soit à destination des éditeurs ou à destination des organismes, pour s'assurer que ce travail de mise à disposition et de mutualisation fonctionne. Les organismes ont redéposé des adaptations à partir de 2018, puisque à la suite de la loi LCAP de 2016 et du décret de 2017, tous les organismes habilités ont dû renouveler leur habilitation pour répondre au nouveau cadre juridique, puisque en plus du dépôt des adaptations réalisées, cette loi a aussi étendu le cadre des bénéficiaires. Donc ce n'est plus seulement des personnes reconnues handicapées à 80%, mais c'est toute personne empêchée d'accéder à l'œuvre telle qu'elle est mise à disposition du public. Et donc ça touche potentiellement 5 à 10% de la population, ou peut-être même plus, 20%, notamment tous les troubles de l'apprentissage, de la cognition, les dyslexiques, les dyspraxiques, etc. Et le travail dernier, récent... Donc tout ça pour dire que les organismes ont repris une habilitation pour être dans ce nouveau cadre légal, ont pu déposer des adaptations à partir de 2018 à l'unité, et puis à partir de 2019 par flux. Et donc ce travail de mutualisation commence petit à petit, puisque pour que vraiment il y ait mutualisation, il faut qu'on trouve ce qu'on cherche dans le catalogue, donc il faut attendre un certain seuil. Et aujourd'hui, on en est à 25 000 titres qui ont été téléchargés, donc récupérés pour être rediffusés via ce biais à des bénéficiaires finaux, sans que ce soit forcément par l'organisme ayant réalisé l'adaptation à l'origine. Et la dernière actualité, on va dire, c'est que l'équipe a réalisé un gros travail de refonte de l'application ces dernières années. Donc il y a une nouvelle version de Platon qui a ouvert en fin septembre 2023. Il y avait une nécessité en fait technique, d'obsolescence en fait informatique, puisque la plateforme a commencé à être développée il y a une quinzaine d'années, et c'est quand même une plateforme assez sensible, puisque il y a des fichiers éditeurs dessus, et que tout ce dispositif repose quand même sur la confiance et le fait que ces fichiers ne circulent pas. Et on en a profité pour essayer de placer quelques améliorations fonctionnelles, donc notamment une simplification du processus de dépôt par les organismes, et puis une amélioration des fonctionnalités de recherche dans l'interface, notamment un système de facettes, la possibilité d'affiner la recherche, par exemple pour trouver par format, et qui soit les plus adaptés aux différents besoins des différents types de publics empêchés de lire. Voilà, ça c'est pour l'action actuelle, on va dire, de la BNF sur ce thème.
Merci beaucoup. Comme ça, on verra tout à l'heure ce qui se profile pour les années à venir. Alors, je crois que depuis la mise en place de l'exception handicap, on n'avait pas eu une actualité législative aussi importante autour du livre et de l'accessibilité que ce qu'on a pu connaître cette année. Du coup, Rodolphe, je vous laisse présenter les avancées de 2023.
Oui, merci Hélène. Donc Après l'aspect édition dite adaptée, dans le cadre de l'exception handicap que vient de décrire Marianne, il y a aussi l'édition nativement accessible. Et là, en fait, depuis plusieurs années, les évolutions technologiques et notamment la création de formats dédiés justement à l'accessibilité des livres numériques radicalement changer les choses en termes d'offres de livres pour les personnes en situation de handicap. Et ça, ça a donc été pris en considération au niveau européen avec l'adoption de la directive dite accessibilité ou acte européen d'accessibilité. Cette directive, donc, qui a été adoptée en 2019, a plusieurs enjeux. Tout d'abord, répondre aux engagements internationaux des États membres et de l'Union européenne, notamment dans le cadre de la Convention des droits des personnes en situation de handicap dans le cadre des Nations Unies. Ça a aussi un but, c'est d'améliorer dans l'ensemble de l'Union européenne le quotidien des personnes en situation de handicap. On estime à 80 millions d'Européens concernés, mais aussi des personnes âgées ou à mobilité réduite. Bien sûr, dans l'esprit du marché unique, c'est aussi pour faciliter la circulation des biens et des services au sein du marché unique, donc pour lever les barrières dues à des législations qui pourraient être divergentes en fonction de ces produits et services. Et pour ce qui nous concerne, nous, pour ce qui est du secteur du livre, l'objectif était d'augmenter de manière significative l'offre de livres répondant aux besoins des personnes en situation de handicap. Et ceci tout en maintenant l'exception au droit d'auteur, donc l'exception handicap. Et donc on va avoir l'offre de livres pour les personnes en situation de handicap va marcher sur deux jambes, une avec le nativement accessible et une avec l'adaptation dans le cadre de l'exception handicap. Donc le champ de la directive, en fait, il couvre 11 catégories de produits et services. Et pour ce qui est du livre, on a plusieurs produits et services qui sont listés. Les livres numériques et les logiciels spécialisés de lecture, les services de commerce en ligne, les services bancaires, les liseuses et les équipements informatiques dits grand public, donc les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones et leurs systèmes d'exploitation. Donc toute la chaîne de diffusion du livre numérique va être rendue accessible. Et ceci, ça concerne à la fois les opérateurs du secteur public comme du secteur privé. Alors, on a eu pas mal de temps de réflexion au niveau du gouvernement pour transposer cette directive qui est très technique et qui concerne donc pas mal de secteurs différents. Et pour ce qui est du livre, on a choisi de transposer cette directive au sein de la loi de 2005, la loi handicap de 2005 que vous devez connaître. Et contrairement aux autres produits et services qui, eux, vont être dans le code de la consommation. Alors, cette particularité du livre, c'est cette spécificité, est due parce que le livre numérique, c'est pas seulement un produit ou un service, c'est surtout une œuvre de l'esprit. Et donc, de ce fait, on le voyait mal dans le code de la consommation. La loi donc du 9 mars 2023, qui transpose notamment cette directive, dite loi DADU. Ces lois, en fait, dites DADU, c'est des lois un peu fourre-tout. DADU, c'est pour portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Et il y a des lois DADU assez régulièrement quand la France est en retard dans la transposition de directives. Et donc là, c'était le cas. Donc cette loi, elle va préciser en fait le champ d'application pour ce qui est des livres numériques, et donc notamment que parmi les opérateurs qui sont concernés, il y a les éditeurs. La loi prévoit aussi l'exclusion des micro-entreprises, ce qui est assez conséquent du côté du livre, parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui sont sous le statut de micro-entreprise. Et deux motifs d'exemption qui sont prévus par la directive, celle de modification fondamentale, c'est-à-dire dès lors que les modifications qui sont appelées pour répondre aux exigences d'accessibilité deviennent tellement importantes que ça modifie complètement le livre, alors l'éditeur peut dire bah, pour moi c'est une modification fondamentale de mon œuvre, je ne peux pas remplir les exigences d'accessibilité. Et autre motif d'exemption, c'est la charge disproportionnée. C'est dès lors que pour répondre à ces exigences d'accessibilité, ça demande un investissement tellement important pour l'éditeur qu'il ne va pas s'y retrouver dans l'exploitation du livre au niveau économique. Et donc, il est exempté pour répondre aux exigences d'accessibilité. La loi précise aussi qu'il y a des aides publiques qui vont être possibles. Et surtout, elle donne à l'ARCOM, l'autorité indépendante hein, qui est née de la fusion du CSA et de la Hadopi, le soin de contrôler la prise en compte des caractéristiques d'accessibilité donc propres à certains ouvrages particuliers et de manière générale de bien veiller à ce que l'ensemble des obligations d'accessibilité sont remplies par les opérateurs économiques. Alors qui dit loi dit décret d'application. Dans ce décret, on a précisé en fait comment les opérateurs économiques vont pouvoir se prévaloir d'une présomption de conformité dès lors qu'ils répondent à des normes reconnues au niveau international et européen. Le décret précise aussi les différentes obligations qui se posent pour chaque opérateur de la chaîne du livre, donc les éditeurs, les diffuseurs, les distributeurs et les détaillants. Pour ces trois derniers-là, l'obligation principale, c'est de permettre que le livre qui a été fourni par l'éditeur avec les fonctionnalités d'accessibilité soit restitué tout au long de la chaîne qu'il soit bien lu par l'utilisateur final. Le décret indique les critères pour l'exemption pour charge disproportionnée et il crée une sanction pénale, c'est-à-dire dès lors qu'un opérateur économique n'a pas rempli ses obligations, alors c'est une contravention de cinquième classe, il risque une contravention de cinquième classe, c'est-à-dire 7 500 € par infraction. Qui dit décret d'application, il y a un arrêté d'application qui lui descend encore un peu plus dans la précision des exigences et en fait il reprend textuellement les exigences d'accessibilité qui sont prévues par la directive, que ce soit pour l'ensemble des services, parce que le livre numérique est considéré en droit de l'Union comme un service. Donc, c'est des exigences générales d'information du consommateur sur les fonctionnalités d'accessibilité et précise donc certaines exigences particulières au livre numérique, dont vous voyez ici quelques exemples, comme par exemple prévoir la synchronisation entre le texte et l'audio, veiller à ce que justement... les DRM ne bloquent pas les caractéristiques d'accessibilité, etc. Donc ce texte et ces exigences vont entrer en vigueur de manière différenciée en fonction des livres, en fonction de la date d'édition des livres. Pour tous les nouveaux livres numériques qui vont sortir à compter du 28 juin 2025, ces derniers devront donc remplir les exigences d'accessibilité. Et pour ce qui est des collections des éditeurs qui auront été édités avant le 28 juin 2025 et qui seront toujours disponibles sur le marché à cette date, alors on a prévu un délai supplémentaire parce que ça demande un travail de reconversion des collections des éditeurs qui est assez lourd. Et là, donc l'entrée en vigueur est reportée au 28 juin 2030. Juste pour avoir un ordre d'idée et pour vous montrer à peu près le changement que ça va apporter pour les personnes en situation de handicap, c'est qu'on estime que pour ce qui est du flux, donc les nouveaux livres qui vont être édités, ce seront à peu près 17 000 livres numériques nativement accessibles qui seront produits par an. Donc c'est quand même assez considérable. Et pour ce qui est du stock, des collections, on estime que ce sera environ 330 000 livres numériques qui vont être convertis en format accessible. Donc ça va vraiment changer de manière radicale l'offre de lecture pour les personnes en situation de handicap. Juste vous indiquer un peu le contexte aujourd'hui du secteur du livre numérique. En fait, en 2018, le gouvernement a lancé un comité de pilotage interministériel pour développer l'offre de livres numériques nativement accessibles. Et ce comité de pilotage qui réunit les administrations, des établissements publics, mais aussi les acteurs de l'édition, des bibliothèques et des organismes représentant les personnes en situation de handicap, il s'est fixé en 2018 un plan stratégique et qui décline différentes actions que l'ensemble de ces acteurs doivent mener pour non seulement accompagner tout le monde dans la mise en œuvre de la directive, mais aussi aller au-delà. C'est-à-dire que même si des micro-entreprises pourraient se dire « moi, je suis exempté » ou que d'autres pourraient dire « moi, pour moi, c'est trop cher, je ne peux pas y aller », on va essayer en fait d'encourager tout le monde à y aller, et d'essayer d'aller au-delà des exemptions. En 2022, on a fait une étude d'impact sur cette directive que vous pourrez retrouver sur le site du ministère si ça vous intéresse. Et puis surtout, on a lancé avec l'association EDR Lab un site internet qui s'appelle LINA25, donc LINA25.fr, et donc qui reprend l'ensemble de ce que je viens de vous présenter, mais aussi des conseils pour les opérateurs, quels qu'ils soient, justement pour accompagner dans la production et la diffusion de livres numériques auprès des personnes en situation de handicap. Très rapidement, on a un accompagnement, une réflexion sur l'accompagnement de l'édition et sur l'articulation avec l'exception handicap. Donc un accompagnement au niveau financier, on est en train de travailler à voir quel dispositif on peut mettre en place avec le Centre national du livre pour aider les éditeurs qui en auraient besoin pour remplir leurs obligations. Je vous l'ai dit, l'exception droit d'auteur continuera de s'appliquer telle quelle, c'est-à-dire que même un livre numérique nativement accessible qui, malgré tout, ne répondra pas à tous les besoins des personnes en situation de handicap, c'est impossible, on pourra tout de même l'adapter dans le cadre de l'exception. Et puis, on pourra peut-être échanger, avec Marianne sur le projet de portail national de l'édition accessible et adaptée qui va du coup à la fois présenter l'offre nativement accessible et l'offre édition adaptée. Pour ce qui est des bibliothèques, quand même, avoir en tête que l'accessibilité, les obligations d'accessibilité ont été récemment renforcées à travers une ordonnance de septembre qui, elle, a modifié aussi la loi handicap de 2005 pour confier à l'ARCOM, là aussi, des pouvoirs pour contrôler les éventuels manquements des sites publics à leurs obligations d'accessibilité et avec des sanctions pécuniaires relativement importantes tout de même en cas d'infraction qui pourront être prononcées par l'ARCOM, donc entre 25 et 50 000 euros. Et ces sanctions sont renouvelables tous les 6 mois. Donc c'est quand même assez lourd. Donc il faut que les sites publics et donc les bibliothèques sont concernées par cela, se mettent aussi là aussi en ordre de marche pour être accessibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup pour cette présentation donc sur les futures dispositions sur le livre numérique. Avant de passer la parole à Marianne, de nouveau, j'attire votre attention du coup sur 3 choses. Là, ce qui vous a été présenté, donc le ministère de la Culture est spécialiste du livre, mais il y a d'autres dispositions qu'on ne va pas évoquer ici puisqu'on n'a pas les spécialistes des questions, mais dans ces transpositions directives, il y a aussi des choses sur l'accessibilité du mobilier urbain. Et vous en avez dans vos bibliothèques, c'est par exemple les automates de prêt. Donc c'est les mêmes dates que celles que Rodolphe vous a annoncées, nouvel automate de prêt acheté après juin 2025, ben, il faudra qu'il soit accessible, et sinon c'est 2030. Donc c'est un sujet qu'il faut vraiment garder à l'esprit les uns les autres. C'est la même question pour les liseuses, vous l'avez évoqué, mais ça c'est aussi concerné par ces nouvelles dispositions. Je vais avoir oublié certaines de mes trois choses. voilà, là vous avez aussi, dans la présentation qui vous a été faite, on a beaucoup parlé des éditeurs, hein, puisqu'il faut bien qu'ils nous fournissent des livres accessibles. En bibliothèque, nous on va travailler sur le prêt, donc un point de vigilance c'est aussi pour nous donc de l'accessibilité quand on passera après par nos plateformes de prêt, PNB ou autres. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est un point sur lequel il faut être très vigilant. Et puis je te passe la parole maintenant. Donc Marianne, on vous a évoqué plusieurs fois depuis ce matin l'arrivée à partir de 2025 ou un peu plus d'un grand portail de l'édition accessible et adaptée. Donc c'est Marianne qui va nous donner les grandes lignes de ce projet.
Oui, donc le portail national de l'édition adaptée et accessible, ou accessible et adaptée, je ne sais pas.
C'est
national. Ah oui, national aussi. Donc c'est un projet qui, de la même façon, a été confié aussi à la Bibliothèque nationale de France, dans le même esprit que Platon, en fait. C'est l'idée d'un tiers de confiance et puis aussi de spécialistes de métadonnées. Ce projet de portail tient en trois grandes fonctionnalités. Un catalogue, une possibilité de demande d'adaptation, et une bibliothèque numérique. Donc la première grande fonctionnalité, c'est un catalogue qui sera libre d'accès sur le web, donc librement accessible à toute personne, qui aura vocation à regrouper, à signaler au même endroit les ouvrages nativement accessibles, commercialisés par les éditeurs, donc corpus qui a vocation à augmenter considérablement, comme vous l'avez compris, à partir de 2025, et ces ouvrages adaptés, donc dans le cadre légal, depuis la loi d'APSI de 2006, adaptés par ces organismes habilités. Donc un ensemble unique qui permettra, enfin l'idée hein, c'est que ce soit vraiment un point d'entrée unique et une facilitation pour l'utilisateur final, de trouver au même endroit les ouvrages nativement accessibles qui pourraient donc ensuite acheter dans le commerce, et à défaut des ouvrages déjà adaptés. Donc, en fait, c'est pour ça que le projet aussi a été confié à la BNF. Il y a cette histoire de tiers de confiance, mais c'est aussi le fait que c'est s'appuyer sur l'expertise et l'expérience de la BNF en termes de traitement de métadonnées, puisque là, on a un énorme enjeu de fédérer en une seule base des données qui proviennent de sources extrêmement diverses, de métiers différents, avec des enjeux d'évolution des formats en fait, d'échange de données côté éditeur avec le format Onyx, des enjeux d'évolution de nos propres formats bibliothèques, des enjeux d'adhésion de toutes les structures productrices à un référentiel commun qui permettent de signaler tout ça en un même endroit, et tout ça couplé avec les évolutions à l'échelle internationale sur l'organisation des données, les modèles de données, puisque l'idée c'est que pour que ce soit facile d'accès, il faut qu'on ait des listes de résultats qui regroupent tout par œuvre, c'est-à-dire que ce soit, on identifie très clairement que pour ce même titre, soit il y a un ouvrage nativement accessible, soit il y a un ouvrage adapté, mais qu'on ne refasse pas plusieurs fois la recherche sans être toujours sûr qu'on cherche exactement la même chose. Donc l'idée, c'est une simplification du parcours de l'utilisateur sur cette question du catalogue. La deuxième grande fonctionnalité, c'est une fonctionnalité de demande d'adaptation, puisqu'aujourd'hui, il y a un enjeu qui est que c'est complique, enfin, donc si on trouve rien dans le portail, ni nativement accessible, ni déjà adapté, que si on est bénéficiaire final de cette exception handicap au droit d'auteur, et donc population qui s'est considérablement étendue depuis la loi de 2016, on puisse réaliser à cet endroit-là une demande d'adaptation, ce qui aujourd'hui est tout à fait faisable, hein, puisque le cadre juridique existe, mais qui peut être difficile dans certains cas de figure pour des personnes qui ne savent pas exactement à qui elles peuvent s'adresser, puisque le paysage en fait des structures adaptatrices est très éclaté, très varié, et d'ailleurs c'est très bien parce que ça répond à plein de types de besoins différents, mais il y a environ 200 structures qui ont aujourd'hui une habilitation en France, et donc l'idée c'est que ce soit plus facile pour les bénéficiaires finaux et leurs accompagnants de trouver cet endroit unique où s'adresser pour demander une adaptation. Et la troisième grande fonctionnalité, c'est celle de la bibliothèque numérique ou bibliothèque de documents. C'est l'idée que sur ce portail, on puisse, le bénéficiaire final de l'exception handicap, donc là, ce n'est plus une fonctionnalité ouverte à tous, hein, puisqu'on reste dans le cadre du droit d'auteur, sur authentification des personnes autorisées, puissent accéder directement aux fichiers adaptés réalisés par les organismes. Je cherche des chiffres. Oui, non. Du coup, là, le gros enjeu qui est devant nous, c'est la construction de ce portail avec tout le paysage concerné, qui va donc des éditeurs qui eux-mêmes doivent s'organiser pour produire des livres nativement accessibles, non seulement les produire, mais réussir à les signaler, c'est-à-dire signaler dans leurs métadonnées à eux que c'est accessible de tel et tel niveau, et puis les structures adaptatrices. Et là où il y a vraiment un enjeu très important, c'est que aujourd'hui, le cadre existe, il y a déjà des adaptations, mais par exemple, la plateforme Platon, elle n'est pas accessible aux bénéficiaires finaux. Demain, le portail, il sera accessible à tout le monde. Les documents sont accessibles directement sur ce portail, comme il existe aujourd'hui. Hein, certaines structures qui mettent à disposition des bibliothèques numériques adaptées sur le web. Et il y aura un réel enjeu, du coup, d'accompagnement dans plusieurs cas de figure. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, finalement, le portail sera librement accessible, les documents librement accessibles, qu'il n'y aura pas un rôle à jouer, justement, pour cet accompagnement à la lecture. Puisque le bon ordre d'accompagner des professionnels, et je pense évidemment, du coup, aux bibliothèques, il se place à différents niveaux. D'une part, faire connaître le service aux personnes qui ne se sentent pas nécessairement concernées. C'est-à-dire que des personnes qui sont, entre guillemets, conscientes de leur handicap, je vais dire ça, ou qui sont accompagnées par des structures depuis toujours, peuvent savoir à qui s'adresser. Mais dès lors qu'on parle, par exemple, de toutes les personnes atteintes de dyslexie, tous les élèves, etc., il y a un vrai enjeu de faire connaître, en fait, ses droits et ses services et ce portail qui sera un point d'entrée unique. Il y a l'idée qu'il faudra aider toutes les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique à le manipuler pour s'inscrire, pour ensuite faire ses recherches. Donc il y a un vrai enjeu non seulement de recherche bibliographique, mais aussi de trouver le format le plus adapté à son besoin en fonction de sa difficulté à lire ou son empêchement à lire. Et puis, à mon avis, un accompagnement jusqu'à la capacité de lire jusqu'au bout avec ses logiciels de lecture éventuellement spécialisés ou les appareils de lecture, c'est-à-dire toute la chaîne de lecture qui permet qu'une fois qu'on a signalé quelque chose, c'est que l'enjeu, c'est que les gens puissent arriver jusqu'au document et le lire. Et donc, à mon avis, là, il y a un vrai enjeu qui est que sur le territoire, il existe plein de relais qui sont les lieux de la lecture, qui sont les bibliothèques et qui doivent être les lieux de la lecture pour tout le monde et pas des lieux spécialisés pour certains types de difficultés de lecture. Donc, c'est pour ça que il y aura un gros travail d'instruction donc dans plein de directions différentes, hein, tant sur les besoins des utilisateurs, les métadonnées, la conservation des fichiers, etc., les discussions avec les éditeurs, mais il y aura aussi un gros travail à mener d'instruction avec vous, en fait, avec les professionnels des bibliothèques et les représentants, les organes représentatifs type l'ABF, pour construire vraiment le cheminement utilisateur dans le plus grand nombre de relais en France pour accompagner les bénéficiaires finaux.
Merci beaucoup. Alors, vous savez sans doute pour certains d'entre vous que cette question de l'accessibilité du livre numérique est donc beaucoup questionnée en ce moment. La preuve, c'en est sans doute que certains d'entre nous se partagent entre deux lieux aujourd'hui, puisque à la BNF, il y a en même temps que cette journée, les assises du livre numérique organisées par l'ESNE. Donc, merci particulièrement à Rodolphe et à Marianne d'être venus aujourd'hui nous partager quand même ces notions. Je retiens de ce qu'a dit Marianne la nécessité qu'il y aura pour nous tous de travailler la médiation autour de ce futur portail. Ça va demander beaucoup d'accompagnement. Bon, ceux qui font déjà de l'accompagnement de personnes en situation de handicap en bibliothèque, je pense que vous avez très bien une idée du temps que ça prend, de la personnalisation du service que ça nécessite aussi. Et donc, pour nous aussi, de nous familiariser avec un nouvel outil qu'on ne connaît pas encore, qu'on découvrira petit à petit, mais peut-être prévoir déjà, d'ores et déjà, dans vos plans de formation, je sais pas, en 2025. J'imagine, par exemple, dans une temporalité que Marianne nous précisera au fur et à mesure, de prévoir vraiment un temps important pour se familiariser avec ce nouveau portail et réfléchir à la médiation qu'on va en faire avec nos usagers. Et merci aussi d'avoir réinsisté sur l'importance du parcours usager et de son accessibilité du début à la fin, je vais prendre ma petite casquette ABF là, pour vous rappeler que les derniers tests qu'on a faits, notamment sur le parcours PNB par exemple, en mars dernier, montrent qu'on peut tout faire sauf lire le livre une fois qu'il est dans l'application. Et donc on a vraiment un bon exemple là du fait que tous les maillons de la chaîne doivent être accessibles et que là ce qui nous manque pour l'instant c'est le bout de la chaîne. En tout cas pour le handicap visuel, c'est peut-être différent aussi, enfin il peut y avoir d'autres freins pour d'autres handicaps, hein. Mais donc il y a encore un certain nombre d'étapes à franchir et on en a discuté encore récemment avec certains qui sont dans la salle là. Actuellement, c'est plus facile d'avoir de l'accessibilité sur un livre qu'on a acheté avec son téléphone mobile que sur un livre qu'on emprunte en bibliothèque. Et ça, c'est un gros axe d'amélioration pour les années qui viennent. Moi, j'aimerais bien dire pour les mois qui viennent, mais on va dire pour les années qui viennent. Alors, on va quitter un petit peu le livre numérique pour s'intéresser aux ressources qu'on propose en bibliothèque. On va commencer par les bibliothèques publiques. Est-ce que, Marion, tu peux nous expliquer les perspectives qui concernent donc les ressources numériques avec Karel.
Je vais commencer par en remettre une couche sur cette question de la chaîne de l'accessibilité, puisque je vous rappelle le périmètre des négociations de réseau Karel. Ça concerne les ressources numériques et ça concerne pas les SIGB et les portails qui sont portés par d'autres associations. Ce qui veut dire qu'on peut arriver à des ressources numériques, effectivement, en théorie accessibles, mais pas au point qu'elles le soient sur nos portails de bibliothèque. Donc cette question, évidemment, de la chaîne de l'accessibilité est extrêmement importante. Je vais commencer par vous dresser un peu un panel des activités de Réseau Karel sur cette question de l'accessibilité des ressources numériques avant d'insister sur les chantiers en cours. Et selon où j'en serai de ma dose de caféine, je serai plus ou moins vers à moitié plein ou vers à moitié vide. On verra dans 5 minutes. Réseau Karel est investi sur ces questions de l'accessibilité des ressources numériques en participant depuis le début sur le baromètre de l'accessibilité porté par le ministère de la Culture, en particulier sur le troisième volet qui concerne les ressources numériques. Alors si on parle du baromètre, du coup, on va être, comme ça a déjà été dit ce matin, plutôt du côté du verre à moitié vide, parce qu'on ne peut pas dire que les progrès étaient tout à fait fulgurants et enthousiasmants au fur et à mesure des baromètres. Néanmoins, j'y reviendrai dans quelques minutes, on sent du côté de Réseau Karel que dans le cadre des discussions avec les éditeurs, il y a de plus en plus une prise en compte et une attention à ces questions de l'accessibilité qui existaient pas ou moins il y a quelques années. Réseau Karel a consacré sa journée d'études l'an dernier sur la question de l'accessibilité des ressources numériques. On sent que c'est une attente forte aussi des adhérents, puisqu'on a pu constater que des bibliothèques avaient pu se tourner vers des offres numériques ou au contraire renoncer à certaines offres numériques du fait de ce critère de plus grande ou moins grande accessibilité. Pour être plus précis sur le périmètre des négociations qui sont menées par Réseau Karel, il y a vraiment une généralisation de la question de l'accessibilité à toutes les offres référencées. La négociatrice, dès le premier rendez-vous avec les éditeurs, qui souhaitent être référencés, leur soumet un questionnaire très précis sur la question de l'accessibilité de leur offre. Et cette question de l'accessibilité est ensuite évaluée par le conseil d'administration qui décide ou pas de référencer une nouvelle offre numérique dans le catalogue de Réseau Karel. La négociatrice a aussi un rôle d'accompagnement et de pédagogie et de communication auprès des éditeurs, puisqu'elle leur transmet aussi un certain nombre d'éléments d'information. On leur diffuse le mémento de l'accessibilité de Couperin. Voilà, dont parlera sans doute ma collègue tout à l'heure, différentes vidéos introductives et différentes explicitations des critères d'accessibilité. En plus de cette prise en compte de l'accessibilité au moment de l'analyse des offres, il y a au catalogue de Réseau Carel des offres qui sont conçues spécifiquement à destination de personnes porteuses de handicap. Vous les connaissez sans doute, Bibliodyssée, qui est un bouquet de livres numériques jeunesse, Mediapi, qui est un média LSF, ou Gérib Compétences, qui est une ressource d'auto-formation qui a été en partie co-construite avec des orthophonistes. Du côté de Réseau Carel, au-delà de l'analyse des offres, on progresse aussi puisque est en finalisation, c'est une question de semaine, un nouveau site, puisque le site de Réseau Carel, c'est évidemment le cœur du réacteur de l'association pour diffuser toutes les informations aux adhérents. Et donc sur ce nouveau site de Réseau Carel, qui devrait paraître en fin d'année 23, début 24, il s'agit de renseigner de manière très précise une rubrique accessibilité pour chaque offre. Donc, à minima, indiquer si la déclaration d'accessibilité est bien publiée. Bon, on rappelle évidemment que c'est obligatoire, mais si ça suffisait à ce que ce soit obligatoire, ce ne serait pas utile. Le lien vers cette déclaration, la conformité au RG2A, et puis on indique si l'auteur a fait, si l'éditeur a fait l'objet d'une évaluation dans le cadre des baromètres de l'accessibilité. Sur la fiche publique, dans le champ spécificité technique, on pourrait, si l'éditeur en est d'accord, délivrer plus d'informations sur les dates et dernières refontes de leur site. Et sur la fiche d'évaluation, on relaye évidemment les évaluations qui ont été faites par des adhérents ou des membres du conseil d'administration. Il y a un vrai impact de la publication et de la diffusion de ce type d'information en termes d'image pour l'éditeur. Donc ça, c'est bien, ça a un poids. L'inconvénient, c'est que du fait de cette problématique d'image, certains éditeurs peuvent avoir tendance à rester un peu opaques sur certaines spécificités techniques, qu'il n'y a pas forcément une grande transparence sur ces questions d'accessibilité. Et on prévoit aussi sur le site, le prochain nouveau site de Réseau Carel, qu'une rubrique donne une sélection d'outils et de références pour pouvoir tester l'accessibilité des ressources. Voilà un peu le panel d'action au terme de Réseau Carel. J'insisterai sur un certain nombre de chantiers qui restent à mener, un certain nombre de questions auxquelles on fait face. Alors, sur la question de l'évaluation, d'une part, Réseau Carel reste une association et on n'est pas outillé comme un certain nombre d'entreprises qui mènent les audits. Donc, on peut parfois être limité dans nos critères d'évaluation. On sait aussi qu'il y a les critères objectifs et techniques, mais que parfois ça ne suffit pas, qu'il y a besoin aussi de tests et qu'il y a aussi une question d'ergonomie. J'ai souvenir d'avoir testé pour la partie livre numérique avec des collègues de Paris et que ça m'avait l'air très très bien, moi, vu de l'extérieur. Et quand je voyais les collègues non-voyants et malvoyants utiliser, le bouton, il est mal étiqueté, il n'est pas au bon endroit, etc. Et moi, de l'extérieur, je trouvais ça très très bien. Et donc, cette question de l'évaluation et de l'expérience usagée, souvent, c'est quelque chose qui nous fait défaut. Il faudrait qu'on puisse mobiliser plus de collègues à même de faire des évaluations incarnées La problématique étant que certains collègues ils sont qui peuvent être malvoyants, non-voyants, s'ils ne sont pas non plus embauchés en bibliothèque pour être des évaluateurs et des testeurs à 24, et qui a parfois un côté un peu désespérant à voir la peu de rapidité de progrès. Voilà. Et donc cette question de l'évaluation, au-delà des critères qu'on peut vérifier, est-ce qu'il y a la déclaration d'accessibilité, etc., on est parfois un peu dépourvu et désarmé pour avoir un regard vraiment aiguisé et pertinent. L'autre question qui se pose, c'est jusqu'où on va pour contraindre les éditeurs à améliorer l'accessibilité de leurs ressources. Est-ce que il faut, alors on parle comme bibliothécaire, mais aussi comme réseau, comme association, est-ce qu'il faut boycotter les ressources non accessibles? Est-ce qu'on les boycotte à partir d'un certain degré d'inaccessibilité, ou est-ce qu'on met la barre? Quel est le degré d'accessibilité? C'est pas simple. On sait, donc ça a été dit, j'en remue une troisième couche, j'en mettrai une quatrième, que le baromètre de l'accessibilité évalue l'interface et non le contenu final. Donc, en théorie, si on se fait l'avocat du diable, une ressource au contenu inaccessible pourrait recevoir une excellente note au baromètre si son interface répondait aux critères d'accessibilité. Voilà, inversement, des éditeurs sanctionnés par la publication d'une mauvaise évaluation pourraient être tentés de remettre en cause, en question, la méthode et l'objet de l'évaluation. J'ai déjà eu des échanges avec des éditeurs en ce sens. Voilà, donc pour Réseau Carrel, est-ce qu'il faut déréférencer une offre si elle n'est pas accessible? À l'heure actuelle, on se maintient plutôt dans une logique de dialogue et de confiance dans le progrès et de travail en bonne intelligence. Et on pense aussi que la mauvaise publicité en termes d'accessibilité vont finir par faire bouger les choses. J'insisterai aussi en termes de chantier et de questionnement sur la question, cette question de la chaîne de l'accessibilité. On sait que pour le prêt numérique en bibliothèque, l'arrivée de LCP a été une excellente nouvelle. Mais néanmoins, au-delà du livre lui-même, on se heurte toujours à des blocages du fait des applis et des appareils de lecture, et que parler d'accessibilité n'a aucun sens si on n'articule pas l'écosystème portail, accès et ressources elles-mêmes. Autre question qui rejoindrait celle de où on met le curseur en termes d'exigence sur l'accessibilité. On remarque qu'il y a dans certaines offres numériques des progrès en termes d'accessibilité, mais moi j'appellerais ça l'accessibilité à la carte plutôt que l'accessibilité universelle. On a vu dans certaines offres jeunesse, par exemple, que les modules 10 et accessibles étaient à souscrire en option, mais n'étaient pas inclus dans le forfait de base. Donc, à la collectivité de décider si elle paye plus cher pour que ce soit accessible. Dans d'autres cas, il y a des offres qui fonctionnent assez bien sur la question des caractères, des grossisseurs de caractères, etc., mais que ça ne marche pas avec des lecteurs de revues d'écran. Donc, progrès pour les malvoyants, blocage pour les non-voyants. Et on se rend compte de manière générale qu'il manque encore et toujours des informations sur l'accessibilité. Ou alors des informations un peu erronées. On parle de sous-titrage, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que ce n'est pas des sous-titrages LSF, ou alors qu'il n'y a pas de possibilité de faire des modalités, des tris, et qu'il n'y a pas, avant même de la question de l'accessibilité, encore une fois, il n'y a pas l'information pour les usagers qui pourrait les aiguiller à minima vers des offres qui répondent à leurs besoins.
Merci pour tout ça. Alors, merci Marion d'avoir évoqué le baromètre de l'accessibilité numérique en bibliothèque publique. Dans ce baromètre, on teste à la fois la conformité et on essayait d'équilibrer un petit peu les notes, enfin les notes ou l'évaluation, avec des éléments qui relèvent du parcours usager. Donc c'est bien important pour vous aussi de comprendre que on peut avoir des sites qui sont conformes et conformes à 100% et pour lesquels, pour autant, on pourrait quand même encore avoir des blocages pour certaines situations de handicap. Donc, faire des tests utilisateurs, c'est aussi important dans certaines circonstances. Donc, voilà, l'accessibilité numérique, c'est quelque chose de nécessaire. Maintenant, vous l'avez vu, c'est une question transverse. Donc, pensez bien à interroger vos fournisseurs de portails, vos fournisseurs de ressources, à mettre ces questions dans les marchés que vous publiez pour être sûr de pouvoir avancer autant qu'on peut, puisque je crois qu'y être complètement, on n'y est pas encore aujourd'hui, malheureusement. Alors, on va passer du côté des BU. Fabienne, on vous laisse du coup présenter ce qu'il en est pour Couperin.
Oui, ce qu'il en est pour Couperin. Alors, je vais passer assez rapidement sur le consortium. J'avais des diapos, vous, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, quand même, pour synthétiser, aujourd'hui, c'est 260 membres, dont 99 universités et établissements assimilés, 93 écoles et 27 établissements de santé et aussi des organismes de recherche, CNRS, INRAE. Donc, pour vous dire que c'est quand même c'est assez hétérogène, parce qu'on a à la fois des publics étudiants, des publics enseignants-chercheurs, il faut trouver des offres qui correspondent donc à tous ces publics. Donc, comme je vous le disais, le fonctionnement repose sur l'engagement actif et volontaire des agents des établissements, aidés par une équipe de permanents dédiés. Mais les négociations sont menées par des personnels de bibliothèque qui sont en quelque sorte détachés par les établissements. Souvent, c'est donc une ou deux personnes qui vont discuter avec l'éditeur selon une lettre de cadrage qui a été rédigée par le bureau professionnel. Et l'objectif de la négociation, c'est d'arriver à une grille tarifaire uniforme qui va être à destination de tous les établissements. Et chaque établissement et l'éditeur s'engagent à... C'est un engagement paritaire et donc il n'y a pas de renégociation a posteriori. Et on arrive à la rédaction d'une licence, d'une lettre d'accord pour finaliser cette négociation. On a aussi des négociations qui vont aboutir à des groupements de commandes portés soit par l'ABES, qui est l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, ou par un établissement de type CNRS ou autre. Donc ça, c'était la mission première et initiale de Couperin, qui au fil des 20 ans d'existence ont constitué des groupes de travail, notamment sur les archives ouvertes, la science ouverte, les statistiques, dans l'idée d'avoir des statistiques normalisées pour qu'on puisse comparer aussi entre éditeurs les usages. Et puis sur la question de l'accessibilité, je pense qu'on était sans doute un peu plus en retard par rapport au réseau Carrel. C'était pas une question qui était soulevée comme ça très tôt dans la vie du consortium, et on a constitué un groupe de travail accessibilité seulement en avril 2022. Alors il y avait déjà dans la lettre de cadrage une demande sur la déclaration d'accessibilité, mais c'était quelque chose d'assez flou et il n'y avait pas vraiment d'injonction auprès des négociateurs. Donc dans ce groupe de travail qu'on a constitué en avril, donc il y avait donc moi, et j'ai été accompagnée par deux personnes, donc une autre négociatrice de l'Université du Havre, Delphine Lescaut, et Elsa Doublé, qui n'était pas négociatrice Couperin, mais qui est référente en handicap dans sa bibliothèque au sein de l'Université Lyon 3. Et donc, on s'est réunis quelques fois, donc sur une fois par mois à peu près, depuis avril 2022, et on découvrait pas, mais quand même, on a creusé cette notion d'accessibilité et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire donc à destination des négociateurs et négociatrices. Et donc, on a finalisé ce memento donc à l'usage des négociateurs, qui reprend les contraintes légales et notamment le déroulé de la loi de 2005, enfin réexpliquer la directive européenne, et puis cette obligation qui s'impose à nous, à la fois pour nos portails web de bibliothèques, de BU, et sur les ressources qu'on met à disposition à travers nos portails. Et donc ce memento reprend ces aspects législatifs, les aspects normalisation aussi. Qu'est-ce que c'est que les référentiels d'accessibilité, le RG2A, le WCAG, parce qu'on a négocié aussi beaucoup de ressources internationales, hein, notamment anglo-saxonnes. Donc effectivement, le RG2A ne s'applique pas toujours. Donc voilà, d'expliciter un peu les deux référentiels. Et donc, on a mis en ligne ce memento. Je vous ai mis l'adresse. Donc, sur le site de couperin.org, on retrouve ce memento. Et dans la démarche, l'idée, ça a été aussi de mettre en place, on a fait 4 webinaires sur la période de septembre 2023 pour le présenter aussi aux négociateurs et négociatrices. Et là, on s'est rendu compte que beaucoup d'entre nous, enfin négociateurs, bénévoles, on n'avait pas forcément en tête tous ces éléments. Et dans l'idée d'en parler et de demander aux éditeurs où est-ce qu'ils en sont sur cette thématique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on avait aussi on a donné des exemples et des contre-exemples. On s'est focalisé un petit peu dans un premier temps, parce qu'on en est un petit peu au début de la démarche, sur cette déclaration d'accessibilité que doit fournir chaque éditeur. Et on s'est rendu compte que les éditeurs anglo-saxons souvent sont plutôt bons, ont leur déclaration d'accessibilité. Alors, sachant qu'elle ne veut pas forcément dire toujours conformité, enfin voilà, c'est pas parce qu'on a la déclaration d'accessibilité qu'on n'a pas testé par les usages, hein, mais elle a au moins déjà le mérite d'exister, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là, pour les éditeurs français. Notamment, par exemple, Open Edition, il y a une page, mais qui dit bien que la page est non conforme. Et si je me souviens bien, cette page, elle date déjà d'un audit de 2 ou 3 ans. Donc, c'est pas très à jour. Par contre, thèse.fr va donner son schéma pluriannuel de mise en accessibilité. Mais là, c'est pareil, c'est pas toujours mis à jour. Il peut dater déjà de quelques années et on ne voit pas la progression. Et puis, beaucoup de sites français n'ont même pas la déclaration d'accessibilité des sites et des prestataires qu'on retrouve sur nos portails comme Universalis, Vocable ou Dalloz. Donc, beaucoup de ressources qui n'ont même pas cette déclaration d'accessibilité. Donc, ce qu'on a demandé un peu aux négociateurs, c'était les attendus de la lettre d'accord Couperin en 2023, on demande, donc c'est une liste d'items sur cette lettre d'accord qui est sous forme de tableau Excel, et on demande aux éditeurs de remplir une ligne sur leur degré de conformité avec le référentiel RG2A ou le WCAG pour ceux qui ne seraient pas francophones, français, ils ne pourraient pas se référer au référentiel français. Aujourd'hui, dans l'attendu, on demande un degré d'accessibilité. On ne fait qu'une demande. On ne l'exige pas. Ça fait partie des améliorations à avoir pour l'année prochaine, d'exiger cette déclaration d'accessibilité pour aller plus loin. Dans notre groupe de travail, tel qu'on l'a conçu aussi dans cette première étape, c'était déjà de sensibiliser tous les négociateurs à cette thématique et qu'ils en parlent avec les éditeurs pour au moins les mettre en ordre de marche un peu sur le sujet. Notamment, on pensait aussi aux éditeurs francophones et donc les renvoyer aussi vers le memento qu'on a mis en ligne. Il est aussi public et il est aussi pour les éditeurs. Donc, c'était un outil d'aide pour les négociateurs. Voilà où on en était pour Couperin. Alors après, pour 2024, beaucoup de questions et qui ont été déjà bien rappelées par la collègue de Réseau Carrel. Passer d'une incitation à fournir l'obligation de déclaration fournir cette fameuse déclaration d'accessibilité. Mais que faire en cas de site non accessible? Est-ce qu'on va jusqu'aux sanctions? Si on va jusqu'au désabonnement, est-ce qu'on référence pas? Est-ce que c'est une offre qu'on dit que Couperin n'a pas validée? Mais les établissements pourront-ils vraiment se désabonner? Comme l'a souligné ma collègue de Carrel, on n'est pas nous-mêmes évaluateurs. Comment on évalue ces sites? La déclaration d'accessibilité n'étant pas suffisante. On n'a pas le groupe n'est pas structuré avec des personnes en capacité de tester en termes d'usage. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de questions. Le groupe de travail s'est réduit de 3 à 1. Je suis plus que toute seule. Donc s'il y a des gens dans la salle qui viennent du monde des bibliothèques universitaires, je serais ravie qu'il y ait d'autres personnes qui se joignent à moi dans ce groupe, parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Et de suivi à faire avec les éditeurs, parce qu'on se rend compte aussi que si un éditeur qui n'a pas fait nativement son site web et son portail de manière accessible, on se doute bien que la mise à jour va être compliquée et que d'ici 2025, c'est très court. Voilà ce que je pouvais dire pour le moment.
Merci beaucoup. Donc, on suivra avec attention les évolutions de l'accessibilité et de vos stratégies à Carrel et à Couperin. Donc, je me permets de préciser là que jusqu'à récemment, effectivement, ce qu'on demandait, c'est aux différents sites d'afficher une déclaration d'accessibilité. L'obligation, elle portait là-dessus, qu'elle soit conforme ou pas conforme. Maintenant, depuis septembre, si je ne me trompe pas, ce qu'on demande, c'est un taux de conformité. Donc maintenant, on est sanctionné si on n'est pas conforme. On n'est pas juste sanctionné parce qu'on n'affiche pas la déclaration d'accessibilité. Donc il y a une évolution là-dessus. Merci pour vos présentations et surtout merci d'avoir respecté le temps. Ça nous permet d'avoir un petit temps de questions. Je vais me permettre de poser moi la première question, puisque là, autour de la table, on a donné des exemples qui concernent la déficience visuelle, on a donné des exemples qui concernent la dyslexie et on n'a pas parlé des sourds. Est-ce que quelqu'un dans la salle, soit un collègue sourd, soit quelqu'un qui travaille étroitement avec les sourds, voudrait réagir, par exemple, par rapport à la place qui est accordée à la culture sourde dans les offres qui sont disponibles? Je sais qu'on a déjà eu des discussions, par exemple, par rapport à la présence de la culture sourde dans les yeux d'oc ou sur d'autres offres. On inverse un peu les rôles. Si personne ne veut répondre à ma question... Ah, on peut désigner un volontaire. Si tu en vois un dans la salle, désigne-le. Ou fais-toi leur porte-parole.
Moi, je peux rendre compte de l'expérience des collègues l'an dernier. Donc, moi, je travaille à Paris et à l'occasion de la journée Carrel l'an dernier, justement, je trouvais ça important qu'on puisse comprendre les limites de nos ressources numériques par l'expérience utilisateur. Donc j'avais sollicité un collègue des pôles sourds et une collègue de pôle lire autrement pour nous faire un retour sur nos ressources numériques. Ce qui était apparu, mais j'espère que David me corrigera si je dis des bêtises, c'est que la problématique de l'accessibilité était a priori un tout petit peu moins frappante dans le monde de la culture sourde, parce que y a de l'écrit, et quand l'écrit est maîtrisé, c'est déjà quelque chose en termes d'accès, mais qu'il y avait très peu de choses en termes de contenu qui pouvaient intéresser les sourds, très peu de filtres en termes d'accès, et que ce qui concernait les sous-titrages, il n'y avait vraiment pas grand-chose, ou alors c'était trompeur, justement, sur ce que j'évoquais tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a du sous-titrage, et quand on creuse, il n'y en a pas, ou en tout cas, pas beaucoup vraiment en LSF. Voilà, et que la demande, il me semble, portait sur évidemment cette question du sous-titrage, mais aussi sur cette question de contenu, soit facile d'accès, soit vraiment culture sourde.
Voilà, et de représentation en fait aussi de sourds dans les films, etc. Attention aussi, cette question, elle soulève aussi la question des sous-titrages automatiques qui sont proposés par certaines ressources maintenant sur des vidéos et dont il est important, et ça, si vous voyez bien, vous pouvez le faire aussi, de tester la qualité. Et à vous maintenant.
J'ai une question ici. Oui, bonjour. Concernant Platon, j'ai eu du mal encore à comprendre le principe, c'est-à-dire que quand des bibliothèques, médiathèques, donc par leur intermédiaire, l'usager, ont des documents adaptés, déjà qui adapte ces documents et quels sont les différents types d'adaptation pour ces usagers, s'il vous plaît?
Alors, à l'origine, les documents sont adaptés généralement sur demande d'un bénéficiaire qui aujourd'hui s'adresse à une structure adaptatrice qui rarement est une bibliothèque. Il y a des bibliothèques qui adaptent, mais par exemple, là, aujourd'hui, il y a 85 bibliothèques qui ont l'habilitation, donc ils sont autorisés à s'échanger des fichiers, etc. Mais il n'y en a que 15 qui ont l'agrément qui permet vraiment de récupérer les fichiers sur des éditeurs. Donc, c'est essentiellement des structures spécialisées, l'association Valentin Huy, le GI2, enfin, APIDV, les donneurs de voix, et tout un réseau, et puis après les ESMS pour les vraiment qui desservent les scolaires via les maisons départementales du handicap, etc.
Plutôt des BU.
Il y a des BU qui adaptent effectivement aussi. Donc, c'est les adaptations qui seront déposées sur Platon, elles proviennent pas forcément d'une demande de bibliothèque à l'origine. Il y a certaines bibliothèques qui produisent des adaptations, mais essentiellement, c'est produit plutôt par des organisations, par des associations ou des organismes spécialisés. J'ai oublié votre deuxième question qui était... Ah oui, quels sont les types d'adaptation ?
Les différents types d'adaptation, parce que moi je travaille dans une médiathèque, on essaye de voir si on peut pas justement monter un dossier pour pouvoir justement proposer à nos usagers ces documents adaptés. Oui. On n'arrive pas à comprendre concrètement comment vont être ces documents adaptés, enfin quels sont les types, différents types d'adaptation, s'il vous plaît.
Alors aujourd'hui dans Platon, il y a vraiment tout type de format. Il y a des EPUB, il y a du PDF, il y a même du traitement de texte, il y a du DESI, il y a de la LSF un peu. Normalement, c'est représentatif de tous les types de formats qui sont produits par des organismes à destination de tous les types de handicap. Ensuite, je pense qu'il y a un vrai travail quand on demande l'habilitation qui est de se former soi-même, en fait, c'est-à-dire pour être capable de desservir le public, de connaître bien les types de formats qui vont servir à tel et tel type de public pour faire connaître l'offre, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avantage de Platon, si on n'est pas une structure qui adapte elle-même, c'est qu'on peut aller chercher ce qui a été adapté par d'autres. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens d'aller jusqu'à l'accompagnement final, ce qui suppose, à mon avis, hein, c'est-à-dire que je pense que les bibliothèques ont... Il y a plutôt un enjeu de formation, justement, à comprendre quels sont les mécanismes de lecture et quels sont les formats qui conviennent aux différents types de handicap, plutôt qu'un enjeu de se former à l'adaptation. Enfin,
voilà. Oui, je compléterais en disant que ce qui est important pour les bibliothécaires, c'est aussi de connaître bien les outils de lecture. Puisqu'en fait, quand on va accueillir un usager, ce qu'on compte, c'est comment il va lire, en fait. Et c'est à nous, quand il ne sait pas, de lui présenter les différentes solutions de lecture. Donc, c'est presque ça. Et la solution de lecture va sans doute ensuite déterminer les formats qu'on va lui proposer. Certains lecteurs viennent en sachant ce dont ils ont besoin. D'autres ont besoin de notre aide pour ça. Il faut le micro, sinon on ne vous entendra pas à distance. Non. À distance, on ne vous entendra pas si vous n'avez pas de micro.
Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Pour rebondir justement sur toutes les formes d'adaptation de texte, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'EJA, édition jeunesse accessible. J'ai suivi une formation la semaine dernière sur les différentes formes d'adaptation des textes pour les personnes en situation de handicap. Et c'est très varié, ça va du pictogramme à tout ce qui est langage codé parlé. Enfin, c'est très, très varié. Ça donne énormément de pistes. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Ils proposent notamment des kits d'accompagnement pour installer des fonds justement à adapter ou lire autrement, justement, pour s'ouvrir à tous, mais sans catégoriser les collections par type de handicap, mais plus par type d'adaptation. Voilà.
Il y a Il y a David qui veut...
Oui.
Avec l'interprète.
Attends, je donne la place parce que là...
Bon, je peux peut-être répondre à la question.
J'ai bien de la place. De la place, merci.
Oui, concernant la question sur l'accessibilité pour les personnes sourdes, il y a des DVD. Je crois qu'il y a trois possibilités. Il y a, bon, par exemple, on parle du sous-titrage français, simple, comme vous, tel que vous le connaissez, hein, et puis en noir et blanc, hein, je dirais assez classique. Il y a le sous-titrage sourd pour sourd et malentendu, malentendant, avec un code couleur qui est. Ouais. Et puis il y a du sous-titrage partiel. Par exemple, pour un film américain, on a un code couleur et parfois on n'a rien parce qu'il n'y a pas besoin de traduction. Alors c'est des choses un peu partielles parce que il y a des moments dans le film qui ont des passages en français ou des choses comme ça, quoi. Donc en fait, nous, sur quoi on travaille, c'est pour le public sourd, les questions qui nous sont posées. En tout cas, c'est est-ce qu'il y a des personnages sourds ? Alors, je ne sais pas, dans les moteurs de recherche, on ne trouve pas ça. Il n'y a pas de mots-clés qui nous permet d'arriver à ça. Donc, on aimerait bien pouvoir, par exemple, pouvoir trouver ou de la musique ou des choses, du chansigne ou des choses comme ça, avec un mot-clé qui nous permettrait de trouver ces ressources pour pouvoir conseiller aux gens. Et ça serait vraiment bien que ça puisse se développer. Et ça serait une vraie réponse qu'on pourrait apporter au public sourd. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir pris la parole là-dessus. Tout ce que David a expliqué là pour les vidéos, en partant des films et des œuvres cinématographiques, c'est vrai aussi pour les vidéos. Et des vidéos, on en a de plus en plus dans les ressources en ligne qu'on propose, dans les ressources de formation, d'auto-formation. Donc c'est vraiment une question très importante pour permettre leur accessibilité.
Bonjour. Alors moi, j'ai une petite question. Je viens d'un tout petit territoire. Où donc on a des personnes en situation de handicap et on a surtout un taux d'électronisme énorme, et donc l'accès aux ressources numériques est quasiment impossible. Donc ma question, on a des conseillers numériques qui sont sur notre territoire puisque le département nous permet d'avoir ces conseillers numériques, mais qui ne sont pas formés pour aider des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous connaissez des dispositifs? Ou est-ce que vous connaissez des moyens? Parce que nous, c'est notre grand problème. En fait, les ressources numériques, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on essaye d'exploiter un maximum dans nos bibliothèques. Mais sur notre territoire, par exemple, ça fait un flop total parce que simplement, nos usagers ne savent pas comment utiliser ces ressources et nous non plus. Et nos conseillers numériques ne sont pas formés. Donc, est-ce que vous connaissez... Enfin, il nous manque un petit maillon de la chaîne, en fait... sur l'accessibilité. Pardon, je suis désolée si c'est... Enfin, voilà, je sais...
Alors, je sais pas, quelqu'un de vous répondre ou c'est moi ? Alors, d'abord, moi, je vais distinguer les deux choses. L'électronisme, c'est pas tout à fait notre sujet aujourd'hui, même si parfois les choses se rejoignent. Il y a d'autres manifestations organisées sur l'illettrisme et l'électronisme. Donc, pour cette question précise, je vous renverrai à ces manifestations-là. Pour la question de la formation, de l'accompagnement... sur des ressources numériques pour des personnes en situation de handicap, c'est une vraie question que vous soulevez. Elle existe aussi sur des territoires urbains. Rassurez-vous, on n'a pas encore souvent la réponse. Moi, je suis la première à dire que oui, je peux être une usager experte de mon handicap, par exemple, d'accompagner très bien certains usagers là-dessus, parce que je suis aussi une utilisatrice au quotidien. Donc moi, un premier élément de réponse, ça peut être... est-ce que dans votre collectivité, il y a les 6% de personnes handicapées requises par la loi ? Ou est-ce que vous pourriez peut-être faire des recrues qui vous aident à accompagner ces personnes ? L'aide par les pairs, ça marche super bien. Appuyez-vous aussi sur le tissu associatif, s'il existe. Mais forcément, pour un bibliothécaire et même pour un médiateur numérique, ça va être difficile d'être compétent pour accompagner sur tous les types de handicap. Donc il va falloir imaginer un fonctionnement, j'imagine, en réseau ou des ressources, mais je ne crois pas qu'on ait une réponse complète à vous donner aujourd'hui. J'espère pas trop vous décevoir. Maintenant, il existe, après, hein, il faut essayer de trouver des relais. Je sais que certaines bibliothèques travaillent en partenariat avec des associations locales. Le mieux, c'est toujours de partir de son territoire, mais j'ai bien conscience que ça n'existe pas partout. Est-ce qu'il nous reste encore du temps pour une petite question, si on veut avoir du temps de migrer vers les ateliers? Deux, si c'est des questions courtes.
Oui, s'il vous plaît, par rapport à Hélène, vous disiez tout à l'heure que par rapport aux automates, liseuses, certains matériels vont devoir se mettre à jour en conformité plutôt avec la nouvelle loi. Vous pourriez détailler, s'il vous plaît, quelle est cette loi et ce qu'il va falloir faire?
Alors, on parle toujours de la même directive européenne de 2019 avec des transpositions dans différents champs. Ordol vous a dit tout à l'heure que ça concernait par exemple aussi les services bancaires. Donc, il faut que les automates où je retire de l'argent, par exemple, soient accessibles. Bah, de la même manière, ça veut dire que l'automate de prêt à la bibliothèque, c'est du mobilier urbain. Donc, il faut qu'il puisse être utilisé par les différentes personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous pourriez avoir d'autre? Vous avez peut-être des panneaux d'affichage, d'information. Comment on appelle ces panneaux qui défilent? Bon, faites le tour de votre bibliothèque. Ça va concerner aussi les tablettes que vous avez déjà. En général, il y a des options d'accessibilité. Donc ça, c'est se former, savoir les utiliser. Mais les liseuses, est-ce que les liseuses que vous avez prévu d'acheter dans les prochaines années ont une fonction pour vocaliser différentes choses? Voilà. Malheureusement, on n'a pas encore de retour synthétique là-dessus. Ça fait partie de nos pistes de travail à nous pour les deux années qui viennent. Donc, on essayera de préparer des choses pour vous donner plus d'informations là-dessus. À moins que vous en ayez, Rodolphe.
Je confirme ce que vous venez de dire. En fait, la directive concerne effectivement l'ensemble des produits et services que j'ai cités, dont les liseuses, les matériels, les liseuses, et aussi les matériels informatiques grand public, les ordinateurs, les smartphones et les logiciels d'exploitation. Alors, ça n'a pas été transposé dans la loi de 2005, c'était transposé dans le code de la consommation. Et ce sera non pas l'ARCOM, mais ce sera la DGCCRF qui veillera à la conformité de tous ces produits et services qui viendront dans l'Union européenne pour répondre aux exigences d'accessibilité. Donc, a priori, même les producteurs hors Union européenne, notamment de liseuses, seront obligés de répondre aux exigences d'accessibilité. Donc il faut attendre 2025. A priori, les choses ont commencé à changer de manière assez radicale en principe.
Voilà, il y a des choses pour lesquelles nous non plus, on n'est pas encore certains. Par exemple, on n'est pas certain qu'il faille que vous ayez systématiquement un poste sur un système multimédia de bibliothèque qui soit accessible. Donc voilà, il y a des choses pour lesquelles on sait déjà que la directive va s'appliquer, les automates de prêt par exemple, et d'autres choses pour lesquelles on n'est pas non plus encore, nous, tout à fait au clair. Donc on reviendra vers vous sur ces questions, on y veille. Merci beaucoup aux différents intervenants, différentes questions de la salle. Je vais laisser la parole peut-être à Adélaïde pour expliquer la suite pour les ateliers.
Oui, merci à vous cinq, c'était très intéressant.